L'article suivant sera étudié la semaine commençant le 16 septembre 2013. Une poignée d'hommes pour nourrir beaucoup de monde. Voici le verset thème de l'étude. Après avoir rompu les pains, Jésus les distribua aux disciples et les disciples aux foules. Matthieu 14, verset 19. Tout en écoutant cet article, que répondrais-tu aux questions suivantes? Selon quel modèle Jésus a-t-il nourri les foules? Quelle fonction Jésus avait-il confiée aux apôtres et aux anciens de Jérusalem? Quand le moment est-il venu pour Christ d'établir un canal afin de distribuer la nourriture spirituelle? Paragraphe 1 à 3, question. Raconte comment près de Bethsaïda, Jésus a nourri une foule nombreuse. Nous lisons en Matthieu 14, versets 14 à 21. Or, quand il sortit, il vit une grande foule, et il eut pitié d'eux, et il guérit leurs malades. Mais quand le soir fut venu, ses disciples vinrent auprès de lui et dirent « L'endroit est isolé et l'heure est déjà bien avancée. Renvoie les foules pour qu'ils aillent dans les villages s'acheter des aliments. » Cependant Jésus leur dit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Il dit « Apportez-les-moi ici. » Ensuite, il ordonna aux foules de s'étendre sur l'herbe et prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il dit une bénédiction, et après avoir rompu les pains, il les distribua aux disciples et les disciples aux foules. Ainsi tous mangèrent et furent rassasiés, et on enleva ce qui restait des morceaux, 12 paniers pleins. Pourtant, ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans compter femmes et petits-enfants. Représente-toi la scène. Nous sommes en 32 de notre ère, peu avant la Pâque, dans un endroit désert près de Bethsaïda, un village sur la rive nord de la mer de Galilée. Jésus et ses disciples sont réunis avec une foule d'environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les petits-enfants. Regardant la foule, Jésus est pris de pitié. Alors, il guérit les malades et enseigne beaucoup de choses sur le royaume de Dieu. Puis, comme le jour baisse, les disciples pressent Jésus de laisser partir la foule pour qu'elle aille s'acheter à manger dans les villages alentours. Mais Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Sa réponse doit les étonner parce que les provisions dont ils disposent sont plutôt maigres. 5 pains et 2 petits poissons. Poussé par la compassion, Jésus accomplit alors un miracle, le seul que rapportent les 4 évangiles. Il demande à ses disciples de dire à la foule de s'étendre sur l'herbe par groupe de 50 ou de 100. Il dit ensuite une bénédiction, rompt le pain et partage les poissons. Puis au lieu de distribuer directement les aliments, il les donne aux disciples et les disciples aux foules. Grâce à un miracle, il y a plus de nourriture qu'il n'en faut pour tout le monde. En l'occurrence, qu'a fait Jésus ? Il a nourri des milliers de personnes par l'intermédiaire d'une poignée d'hommes, ses disciples. La note ajoute, en une autre occasion, Jésus a nourri miraculeusement 4 000 hommes, plus les femmes et les enfants. De nouveau, il a distribué la nourriture aux disciples et les disciples aux foules. Matthieu 15, versets 32 à 38, fin de la note. Paragraphe 4, question A. Quelle sorte de nourriture Jésus était-il particulièrement soucieux de fournir à ses disciples et pourquoi? Question B. De quoi parlerons-nous dans cette étude et dans celle qui suit? Jésus était encore plus soucieux de fournir à ses disciples une nourriture spirituelle. Il savait qu'absorber la nourriture spirituelle, les vérités contenues dans la parole de Dieu, mène à la vie éternelle. Poussé par cette compassion qui l'a amené à donner du pain et du poisson aux foules, Jésus a passé de nombreuses heures à enseigner personnellement ses disciples. Il savait toutefois qu'il ne resterait pas longtemps sur terre. Il devait retourner au ciel. Comment, depuis le ciel, continuerait-il à bien nourrir spirituellement ses disciples? Il suivrait le même modèle. Il nourrirait un grand nombre d'humains par une poignée d'entre eux. Qui serait cette poignée d'humains? Voyons comment, après son départ, Jésus s'est servi de quelques hommes pour nourrir ses nombreux disciples oints du premier siècle. Puis, dans l'article qui suit, nous répondrons à cette question de la plus haute importance pour chacun de nous. Comment identifier la poignée d'hommes par laquelle Christ nous nourrit aujourd'hui? Jésus choisit la poignée d'hommes. Paragraphes 5 et 6, question A. Quelle décision importante Jésus a-t-il prise pour que ses disciples soient bien nourris après sa mort? Question B. Comment Jésus a-t-il préparé ses apôtres à tenir un rôle clé après sa mort? Un chef de famille responsable prend des dispositions afin de mettre les siens à l'abri du besoin au cas où ils mourraient. Pareillement, Jésus, qui deviendrait chef de la congrégation chrétienne, a pris des dispositions pour que ses disciples aient un soutien spirituel après sa mort. Par exemple, environ 2 ans avant de mourir, il a pris une décision lourde de conséquences. Il a choisi les premiers membres du petit groupe d'hommes par lequel il nourrirait plus tard ses nombreux disciples. Voyons ce qu'il a fait. Après avoir prié toute une nuit, Jésus a réuni ses disciples et a choisi 12 apôtres parmi eux. Les 2 années qui ont suivi, il a été très proche des 12. Il les a enseignés tant en parole que par l'exemple. Il savait qu'ils avaient beaucoup à apprendre. En fait, ils étaient toujours appelés « disciples ». Il a donné à chacun de précieux conseils ainsi qu'une formation poussée dans le ministère. De toute évidence, il les préparait à tenir un rôle clé après sa mort et son ascension. Paragraphe 7, question. Comment Jésus a-t-il révélé ce que serait la principale préoccupation des apôtres? Quel rôle tiendraient les apôtres? À l'approche de la Pentecôte 33, il était clair qu'ils rempliraient une fonction de surveillance. Acte 1, verset 20. Mais quelle serait leur principale préoccupation? Une conversation entre Jésus ressuscité et Pierre le révèle. Nous lisons en Jean 21, versets 1 et 2. Après ces choses, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples, à la mer de Tibériade. Mais voici comment il se manifesta. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, Thomas qu'on appelait le jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Versets 15 à 17. Or, quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Il lui dit, « Fais paître mes agneaux. » De nouveau, il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Il lui dit, « Mène paître mes petites brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'affection pour moi ?» Pierre s'attrista de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'affection pour moi ?» Et il lui dit, « Seigneur, tu connais toutes choses, tu te rends bien compte que j'ai de l'affection pour toi. » Jésus lui dit, « Fais paître mes petites brebis. » Devant d'autres apôtres, Jésus a dit à Pierre, « Fais paître mes petites brebis. » Il montrait par là que ses apôtres feraient partie du petit groupe par lequel ils distribueraient la nourriture spirituelle à beaucoup de monde. Ces paroles ne sont-elles pas touchantes? Elles traduisent bien ce qu'il ressent pour ses petites brebis. La note ajoute, « Du vivant de Pierre, toutes les petites brebis à nourrir avaient l'espérance céleste. » Fin de la note. L'alimentation du grand nombre à partir de la Pentecôte. Paragraphe 8, question. Comment les convertis de la Pentecôte 33 ont-ils montré qu'ils avaient clairement identifié le canal qu'utilisait Christ? À partir de la Pentecôte 33, Christ ressuscité a nourri l'ensemble des disciples oints par le canal ou l'intermédiaire de ses apôtres. Nous lisons en Acte 2, versets 41 et 42. Ceux, donc, qui accueillirent sa parole de tout leur cœur, furent baptisés, et ce jour-là, environ 3 000 âmes furent ajoutées. Et ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, et à avoir part les uns avec les autres, à prendre des repas et aux prières. Les Juifs et les prosélytes, devenus ce jour-là chrétiens oints de l'esprit, ont clairement identifié ce canal. Spontanément, ils ont été assidus à l'enseignement des apôtres. D'après un spécialiste, le verbe grec traduit par « être assidu à » peut signifier « rester fidèlement attaché à quelqu'un ou s'appliquer exclusivement à quelque chose, s'y consacrer inlassablement ». Les nouveaux croyants étaient affamés de nourriture spirituelle et savaient exactement où la trouver. Avec une fidélité indéfectible, ils cherchaient auprès des apôtres à obtenir des explications sur les paroles et les actions de Jésus et une compréhension affinée des passages bibliques le concernant. La note ajoute « Le fait que les nouveaux croyants étaient assidus à l'enseignement des apôtres suggère que les apôtres enseignaient d'une manière régulière. Certains de leurs enseignements ont été conservés dans des livres inspirés qui font aujourd'hui partie des écritures grecques chrétiennes. » Fin de la note. Paragraphe 9, question. Qu'est-ce qui montre que la principale préoccupation des apôtres était de nourrir les brebis de Jésus? Les apôtres n'ont jamais oublié que leur principale responsabilité était de nourrir les brebis de Jésus. Note par exemple la manière dont ils ont traité une question sensible qui risquait de créer des divisions dans la jeune congrégation. Il se trouve que c'était une affaire de nourriture, mais de nourriture matérielle. Contrairement aux veuves parlant hébreu, les veuves parlant grec étaient négligées dans la distribution quotidienne de nourriture. Comment les apôtres ont-ils réglé cette affaire délicate? Les 12 ont confié la distribution de la nourriture, tâche nécessaire, à 7 frères capables. Les apôtres, dont la plupart avaient sûrement participé à la distribution des aliments aux foules miraculeusement nourries par Jésus, comprenaient qu'ils devaient, pour leur part, se concentrer sur l'alimentation spirituelle. Ils sont donc restés assidus au ministère de la parole. Actes 6, versets 1 à 6. Paragraphe 10, question. Quelle fonction Christ avait-il confiée aux apôtres et aux anciens de Jérusalem? En 49, le groupe des apôtres encore en vie s'était renforcé de quelques autres anciens expérimentés. Nous lisons en Actes 15, versets 1 et 2 « Et certains hommes descendirent de Judée et se mirent à enseigner aux frères. Si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Mais après qu'une dissension et une discussion assez graves furent survenues entre Paul et Barnabas d'une part et eux d'autre part, on décida que Paul et Barnabas et quelques autres d'entre eux monteraient vers les apôtres et les anciens à Jérusalem à propos de cette discussion. Les apôtres et les anciens à Jérusalem constituaient un collège central. En qualité de chef de la congrégation, Christ s'est servi de cette poignée d'hommes capables pour régler des questions doctrinales, ainsi que superviser et diriger la prédication et l'enseignement de la bonne nouvelle du royaume. Paragraphes 11 et 12, question A. Qu'est-ce qui prouve que Jéhovah bénissait le moyen par lequel son Fils nourrissait les congrégations du premier siècle? Question B. Grâce à quoi le canal utilisé par Jésus pour distribuer la nourriture spirituelle était-il clairement identifiable? Jéhovah bénissait-il les dispositions par lesquelles son Fils nourrissait les congrégations du premier siècle? Sans l'ombre d'un doute. Comment le savons-nous? Le livre des Actes rapporte « Or, comme l'apôtre Paul et ses compagnons de voyage passaient par les villes, il remettait à ceux qui se trouvaient là, pour qu'ils les observent, les décrets qu'avaient arrêtés les apôtres et les anciens qui étaient à Jérusalem. Vraiment donc, les congrégations continuaient à s'affermir dans la foi et à croître en nombre de jour en jour. » Actes 16, versets 4 et 5. Note que ces congrégations prospéraient parce qu'elles coopéraient fidèlement avec le collège central de Jérusalem. N'est-ce pas la preuve que Jéhovah bénissait les dispositions par lesquelles son Fils nourrissait les congrégations? Car ne l'oublions pas, la prospérité spirituelle n'est possible que grâce à la bénédiction de Jéhovah. Jusqu'ici, nous avons vu que Jésus suivait ce modèle. Il nourrissait ses nombreux disciples par l'intermédiaire d'une poignée d'hommes. Le canal dont il se servait était clairement identifiable. En effet, les apôtres, premiers membres du collège central, donnaient des preuves visibles qu'ils étaient soutenus depuis les cieux. Par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de présages continuaient à se faire parmi le peuple, déclare Actes 5, verset 12. Par conséquent, ceux qui devenaient chrétiens n'avaient aucune raison de se demander « De qui au juste Jésus se sert-il pour nourrir ses brebis ?» La note ajoute « Bien que d'autres que les apôtres aient reçu des dons miraculeux de l'Esprit, il semble que dans la majorité des cas, ces dons aient été transmis directement par les apôtres ou en leur présence. » Fin de la note. À la fin du 1er siècle, toutefois, la situation a changé. La mauvaise herbe foisonne, les tiges de blé sont rares. Paragraphes 13 et 14, question A. Quelle attaque Jésus avait-il prédite et quand ses paroles ont-elles commencé à se réaliser? Question B. Quelles seraient les deux origines de cette attaque? Jésus avait prédit que la congrégation chrétienne serait attaquée. Souviens-toi, dans sa parabole prophétique du blé et de la mauvaise herbe, il a prévenu que sur le blé nouvellement semé, les chrétiens oints, seraient semés de la mauvaise herbe, les faux chrétiens. Le maître laisserait croître les deux types de plantes côte à côte. Il n'interviendrait pas avant la moisson qui aurait lieu à l'achèvement d'un système de choses. Matthieu 13, versets 24 à 30 et 36 à 43. Cette prophétie n'a pas tardé à se réaliser. La note ajoute, en Actes 20, versets 29 et 30, l'apôtre Paul indique que l'attaque contre la congrégation aurait deux origines. Premièrement, de faux chrétiens, la mauvaise herbe, entrerait chez les vrais chrétiens. Deuxièmement, du milieu même des vrais chrétiens, certains deviendraient apostats, disant des choses perverses. Fin de la note. Au 1er siècle, l'apostasie a fait quelques percées, mais les fidèles apôtres lui ont fait obstacle. Ils réprimaient l'influence corruptrice des faux enseignements. Cependant, après la mort du dernier apôtre, l'apostasie a pris racine et s'est répandue. Durant cette période de croissance longue de plusieurs siècles, la mauvaise herbe s'est multipliée alors que les tiges de blé étaient rares. Il n'y avait pas de canal établi, organisé pour dispenser la nourriture spirituelle. Cette situation finirait par changer. Mais quand ? Qui distribuerait la nourriture pendant la moisson ? Paragraphes 15 et 16, question. À quel résultat l'étude assidue des étudiants de la Bible a-t-elle abouti ? Et quelles questions se posent ? Tandis que la période de croissance touchait à sa fin, un vif intérêt pour la vérité biblique s'est manifesté. Rappelle-toi que dans les années 1870, une poignée de personnes sincères cherchant la vérité se sont associées. Elles ont formé des classes bibliques sans aucun lien avec la mauvaise herbe, les faux chrétiens des églises et des sectes de la chrétienté. Humbles et sans a priori, ces étudiants de la Bible, selon le nom qu'ils se donnaient, priaient et creusaient les Écritures. Leur étude assidue des Écritures a été très fructueuse. Ces hommes et ces femmes fidèles ont dévoilé les dogmes erronés et répandu les vérités bibliques, notamment en produisant des publications et en les diffusant très largement. Leur œuvre a gagné le cœur et l'esprit de beaucoup d'humains affamés de vérité. Une question captivante se pose donc. En ces années précédant 1914, les étudiants de la Bible constituaient-ils le canal par lequel Jésus nourrirait ses brebis? Non. La période de croissance était toujours en cours. Le canal par lequel viendrait la nourriture spirituelle prenait forme. L'heure de séparer la mauvaise herbe du blé n'avait pas encore sonné. Paragraphe 17, question. De quels événements importants 1914 a-t-elle été le point de départ? Comme nous l'avons appris dans l'article précédent, la moisson a débuté en 1914. Cette année a été le point de départ de plusieurs événements majeurs. Jésus est devenu roi et les derniers jours ont commencé. De 1914 au premier mois de 1919, Jésus a accompagné son Père au temple spirituel pour procéder à l'inspection et à l'œuvre de purification qui s'imposait. À partir de 1919, le temps était venu de ramasser le blé. Était-ce enfin le moment d'établir un intermédiaire pour distribuer la nourriture spirituelle? Parfaitement. Paragraphe 18, question. Qu'est-ce que Jésus avait promis de désigner et quelles questions cruciales se posaient à l'aube des derniers jours? Dans sa prophétie sur le temps de la fin, Jésus a prédit qu'il désignerait un canal pour fournir la nourriture spirituelle en temps voulu. Matthieu 24, versets 45 à 47. Quel serait ce canal? Conformément au modèle qu'il avait institué au 1er siècle, Jésus nourrirait beaucoup de monde par l'intermédiaire d'une poignée d'hommes. Mais à l'aube des derniers jours, une question cruciale se posait. Qui serait cette poignée d'hommes? Cette question, ainsi que d'autres relatives à la prophétie de Jésus, sont examinées dans l'article qui suit. Après avoir écouté cet article, que répondrais-tu? Selon quel modèle Jésus a-t-il nourri les foules? Quelle fonction Jésus avait-il confiée aux apôtres et aux anciens de Jérusalem? Quand le moment est-il venu pour Christ d'établir un canal afin de distribuer la nourriture spirituelle? Fin de l'article.